C'est la fin du week-end, on est dimanche, il est 20h et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris sur le 93.9 FM et en streaming. Et tout de suite, c'est Museum Side, en avant pour un tour du côté des musées.
On commence avec le mot du conte de l'autre amant. Bon, comme la rencontre fortuite d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection.
Museum Side.
Vous avez tenté de faire quelque chose qui n'est en aucune façon un palais, en aucune façon un lieu de décor, et disons-le tout de suite, en aucune façon un musée.
Museum Side, c'est l'émission de critique d'art de Radio Campus Paris.
Vassili Kandinsky est exposé au troisième étage à côté de Malevitch, comme il se doit.
Ceci n'est pas un musée.
Ah, donc si je trouve Malevitch, pour Kandinsky, je brûle.
On parlera d'exposition d'art.
Ce qui donne un art à une société, dit André Gide, c'est le besoin qu'elle en a, et non une compréhension plus ou moins grande.
On va se balader dans Paris, de musée en musée, toujours en compagnie d'un invité. Ce soir, nous recevons Ilsen About, chargé de recherche au CNRS et co-commissaire avec Adèle Sutre et Mathieu Pernaud de l'exposition Monde Cigane, la fabrique des images, présentée au Musée national de l'histoire de l'immigration jusqu'au 26 août 2018. En deuxième partie, nous parlerons de la rétrospective de Marie Cassatt, une impressionniste américaine à Paris, actuellement au musée Jacques-Marandré jusqu'au 23 juillet. Alors avant ça, je me tourne vers vous, les filles, Charlotte et Marie-Hélène.
Salut.
Bonsoir.
Donc Charlotte, tu nous parles de quoi dans ta chronique ce mois-ci ?
Alors ce mois-ci, je vous emmène dans une promenade musicale en compagnie du compositeur Modeste Moussorgski.
Super. Louis-Julien est toujours derrière la vitre, il fait un petit signe du doigt. Et on commence l'émission par la chronique de Galadriel qui nous emmène ce mois-ci en Australie. Galadriel.
Et oui, tout à fait. Bonsoir. Donc cette fois-ci, je ne vais pas parler d'une œuvre qu'on peut voir exposée, comme j'ai pu faire dernièrement, mais plus généralement d'art aborigène. En fait, j'ai profité du rapide passage à Paris de Camille, qui est partie il y a 4 ans vivre au centre du désert australien. Passionnée d'art aborigène, elle a d'abord travaillé dans des centres d'art, aidant les artistes à préparer leurs toiles, leurs couleurs et les assistant dans leur création. Et aujourd'hui, elle est manager d'une galerie d'art aborigène à Alice Springs, en plein milieu du pays, vraiment. Et elle nous parle donc de cet art fascinant. L'art aborigène est de plus en plus à la mode sur le marché de l'art contemporain depuis quelques années, alors que c'est une forme d'art très ancestrale. Alors Camille, qu'est-ce qui t'a donné envie, il y a 4 ans, d'aller rejoindre des communautés artistiques dans le désert australien ?
Alors, j'ai découvert l'art aborigène quand j'avais 16 ans, et j'étais très attirée en fait par cette forme d'art à la fois liée donc, à des pratiques traditionnelles qui se remontent à des dizaines de milliers d'années, et fait par des artistes contemporains. Donc je voulais aller les rencontrer, et c'est pour ça que je suis partie directement dans les communautés aborigènes, en fait, pour pouvoir travailler avec eux.
Pour un œil occidental, l'art aborigène semble être des compositions abstraites, hein, réalisées avec ces motifs de petits points colorés, alors qu'en réalité, ce sont des symboles qui sont issus du temps du rêve, cet univers de leurs croyances, de leur cosmogonie, et chaque peinture, il y a derrière une histoire, hein, très complexe. Est-ce que tu as réussi depuis à percer un petit peu plus leur mystère ?
Le point sert énormément, ça c'est sûr, c'est très significatif du désert central en Australie. Et chaque artiste en fait va jouer avec ceci, c'est-à-dire qu'il y a une version officielle bien sûr, mais il y a toujours une part de mystère dans l'interprétation de ces signes. C'est-à-dire que certains ressemblent à des signes plus ou moins bateaux, on va dire, que chacun peut reconnaître. Mais
oui,
dessous,
par exemple, si on a un exemple concret, il y a pas mal de flèches, par exemple, qu'on peut voir sur des
oui.
comme motifs.
Ça, ce serait des empreintes.
Voilà, des empreintes.
Voilà, des empreintes ou le demi-cercle.
De pas d'animaux.
Voilà. Mm-hmm. Et le demi-cercle, c'est les personnes assises, par exemple.
Oui.
Mais ça n'explique pas le fin fond de l'histoire, au final, qui reste toujours un petit peu mystérieuse. C'est l'artiste et le public qui va interpréter selon.
D'accord.
Selon son envie.
Donc on peut jamais vraiment savoir, en fait. Comment ton regard sur ces œuvres a pu évoluer, puisque tu as dû en apprendre des choses
Oui, ça c'est sûr. J'arrive à reconnaître les styles et un petit peu ce que l'artiste veut montrer. Et souvent, c'est vrai qu'on ressent de toute façon quand l'artiste exprime des choses beaucoup plus personnelles qui sont liées à son histoire propre, c'est-à-dire qu'il y a la tradition, mais il y a toujours, l'artiste sera toujours là à exprimer quelque chose qui vient de sa vie, à lui et de sa propre interprétation de ses traditions, car ce sont des traditions orales, donc chacun interprète comme il le veut en fait.
En 2017, aux Rencontres photographiques d'Arles, la série de Mathieu Pernot sur la famille tzigane des Gorgans avait ému la plupart des visiteurs. En 1995, alors qu'il est encore étudiant à l'École nationale de photographie d'Arles, Mathieu Pernot commence à portraiturer cette famille, Ninaï, la matriarche et son mari Johnny, ainsi que leurs enfants Giovanni, Rocky, Vanessa, Priscilla et les autres. Pendant 20 ans, il les suit, d'abord en noir et blanc, puis en couleur. Le Musée national de l'histoire de l'immigration, qui a été coproducteur de cette exposition sur les Gorgans à Arles, décide alors d'aller plus loin et de proposer de présenter de nouveau cette série de photos avec, en première partie, une approche plus historique centrée sur la représentation photographique des mondes tziganes, ce qui est très rare. Cela donne une exposition riche, passionnante, où la photographie est mise en valeur et magnifie ces peuples voyageurs. Ilsen Aboud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargée de recherche au CNRS et co-commissaire de l'exposition Monde Tzigane, la fabrique des images, présentée au Musée national de l'histoire de l'immigration. Vos recherches actuelles portent sur l'histoire des politiques anti-tziganes au XXe siècle et sur l'histoire des sociétés romanies contemporaines en Europe. Alors, vous avez voulu appeler l'exposition Monde Tzigane avec un S pour montrer la pluralité de ces peuples nomades. Quand vous parlez de tziganes, à quelle nationalité vous référez-vous ?
Alors, on se réfère à l'ensemble des groupes qui se rattachent au monde romani, c'est-à-dire à l'ensemble des locuteurs de cette langue, qui connaît de multiples variantes dans le monde, mais on distingue globalement trois grands groupes, les Sinti, qu'on appelle Manouches en France, les Gitans, plutôt installés en Espagne, au Portugal, et les Roms, qui couvrent l'ensemble des communautés romanies de l'Europe centrale et orientale, mais aussi de Russie et de Scandinavie, et que l'on trouve aussi dans les terres de l'ancien Empire ottoman, en Turquie et dans les pays balkaniques.
Et alors leur point commun, ce sont tous des peuples nomades.
Non, pas du tout, en fait. C'est une méconnaissance accumulée dans le temps qui a associé ces communautés au nomadisme et à une itinérance structurelle. En réalité, la plupart de ces communautés sont sédentaires ou habitent dans des territoires qu'ils connaissent et qu'ils fréquentent depuis parfois des siècles. Et donc l'idée de nomadisme s'est imposée parce que c'est un langage politique qui a été appliqué à ces communautés au moment où les États-nations de la fin du XIXe siècle envisageaient de réglementer les métiers itinérants. Et on choisit pour cible ces communautés comme les populations désignées pour entreprendre un tri ethnique et politique des territoires. Donc le vocable nomade est resté en pratique, en particulier en France, à cause de la loi de 1912. En fait, la loi du 16 juillet 1912 qui imposait un carnet anthropométrique à tous les nomades a aussi, par la même occasion, établi ce vocabulaire de l'itinérance, de l'errance qui était mythologique jusqu'à l'époque moderne dans le langage administratif et dans l'imaginaire collectif.
Alors, dès le début du XXe siècle, la photographie judiciaire s'ajoute aux mesures des crânes et des corps pour créer des races. Donc, les tziganes sont ainsi tous mis dans le même panier. Est-ce que, vous le montrez bien au début de l'exposition, est-ce que cela a été à la base du racisme latent envers ces peuples, même encore aujourd'hui, malheureusement ?
Ce n'est qu'une partie du problème, en fait. La photographie judiciaire, c'est un instrument de fichage qui est utilisé au moment où on établit des fichiers nationaux, locaux et nationaux, à l'encontre de ces populations. C'est un trait visuel qui va finalement s'appliquer à ces populations et s'accoler, en quelque sorte, à une identité qui serait criminelle, suspecte, judiciarisée. Mais elle s'ajoute à de multiples autres représentations stéréotypées qui accompagnent accompagne l'imaginaire iconographique autour de ces populations qui héritent d'une construction visuelle de l'époque moderne, hein, de l'âge baroque, où on représente les haltes de bohémiens ou les diseuses de Bonaventure. Et à l'époque contemporaine, la photographie, grâce à ce nouveau médium, polysémique, va absorber cette iconographie ancienne pour la redéployer dans un nouvel univers visuel qui va mêler à la fois la route, mais ces motifs traditionnels, mais aussi de nouveaux motifs qui vont s'ajouter, que ce soit les Saintes Maries de la Mer, les figures de gitanes espagnoles, les mariages, les funérailles, et tout un ensemble d'icônes finalement qui vont figer une image composite, mais particulièrement négative.
Et les tziganes deviennent un peu les modèles favoris de certains photographes, et ils en jouent un peu aussi, ils acceptent de poser certaines familles.
Alors, ce qu'on montre dans l'exposition, c'est qu'il y a un genre qui s'impose chez les photographes des études gitanes. Hein. C'est-à-dire que tous les photographes de reportage, de presse, vont à un moment donné rencontrer ces communautés pour construire des images stéréotypées, archétypales, qui vont être facilement vendues dans des journaux, pour illustrer les unes de magazines notamment. Et de l'autre côté, on a des modèles, effectivement, qui répondent à la demande, qui donnent leur image et qui livre aux photographes ce que les photographes attendent d'eux ou d'elles. Hein, donc on a des modèles qui travaillent dans des ateliers d'artistes depuis le 19e siècle, mais en particulier dans l'entre-deux-guerres, autour des photographes qu'ils soient d'atelier ou bien de reportage.
Et vous avez d'ailleurs voulu insister sur la façon dont les tziganes sont montrées dans la presse, avec donc un mur de une, justement, vous venez d'en parler, de une qui met en avant vraiment les tziganes, et chaque affaire est un peu reliée à une image du tzigane.
Oui, ce qui est intéressant dans les unes de magazines, c'est que ça réunit d'abord de l'image, parfois un montage d'images, et du texte associé au titre même du magazine. Donc c'est vraiment la page centrale de reconnaissance de ce que font les journalistes dans les journaux illustrés jusqu'à l'entre-deux-guerres et même jusqu'à aujourd'hui. Et il nous a paru particulièrement pertinent de montrer quel type d'image était associé à ces communautés à travers les unes de magazines. Et ce qu'on voit, c'est qu'on revient toujours sur les mêmes motifs, une femme à l'enfant, une vieille femme qui fume la pipe, des myriades d'enfants, des visages patibulaires d'hommes à la cigarette, associés à des titres toujours plus tapageurs, tape à l'œil plutôt, donc massacre, guerre, errance, mariage coûteux.
Ils sont toujours associés à des éléments très négatifs.
C'est un folklore qui s'impose autour de ces populations qui tentent de résumer en fait l'existence sociale de toutes ces populations. Donc on a une sorte de creuset qui enferme dans un imaginaire extrêmement délimité des populations au contraire extrêmement variées.
Vous montrez également des photos, les seules petites traces qu'il y a des camps d'internement de tziganes en France, et on connaît peu cette histoire.
Oui, c'est vrai que là, on a bénéficié à la fois du travail des historiens qui a été accompli, mais aussi du travail sur le terrain, dans les archives, notamment effectué par l'association du Mémorial des Nomades de France. Et leur travail est fantastique parce qu'il permet de mettre à jour des connaissances, des archives. Et là, on montre des images très rares et très, très précieuses qui retracent l'histoire de l'internement d'environ 6500 nomades durant la Seconde Guerre mondiale, qui ont été internés dans des camps gardés par des gendarmes français, le plus souvent administrés par l'administration française, que ce soit dans le camp de Montreuil-Bellay, qui était à côté d'Angers, ou bien dans le camp de Salier, créé par Vichy en Camargue. Et ces images proviennent essentiellement d'infirmières ou de sœurs, de religieuses qui portaient assistance aux enfants. Et ce sont des traces aussi d'un silence, d'un oubli qui a pesé sur cette histoire, puisque toute l'histoire de l'internement a longtemps été ignorée et totalement méconnue et surtout niée par les autorités françaises qui n'ont jamais reconnu la responsabilité des administrations françaises dans cet internement.
Alors, vous avez voulu placer au cœur de l'exposition une salle monde. Pourquoi c'était important aussi de retracer les parcours, la géographie de tous ces peuples ?
En fait, on avait l'idée que l'encadrement par la photographie ne pouvait être le seul biais pour saisir la diversité des mondes romani dans leur rapport avec la photographie. Pour nous, ce qui était important, c'est que la photographie montre aussi qu'elle est aussi un témoignage, un document sur l'existence de communautés, d'ancrage et d'appartenance. Donc la salle monde, c'est un petit peu un clin d'œil qui projette le visiteur dans un autre univers qui n'est pas celui des stéréotypes ou des archétypes, mais un univers des présences. Présence dans Amérique, présence en Europe du Nord, présence en Europe centrale et orientale. Et on montre à chaque fois, par un petit trait d'image, disons, une présence, que ce soit dans l'Empire ottoman du 19e siècle, ou bien dans la Hongrie des années 50-60, ou bien dans l'Amérique des années 30, dans un quartier de New York notamment, où une famille de Rome chaudronnier s'installe et fait florès en réalisant des images avec la complicité de photographes.
Est-ce que vous pouvez nous parler dans la suite de quelques changements importants pour les Tziganes ? Vous le montrez bien dans les années 60.
Alors, ce qui se passe après la guerre est illustré par plusieurs éléments. C'était difficile de résumer, en fait. Mais ce qu'on a voulu montrer, c'est comment, en France en particulier, on n'a pas voulu s'attacher à toutes les modalités de traitement administratif des populations dans le reste du monde. Mais en France, ce qui se passe est assez intéressant, c'est que la loi de 1912 est toujours appliquée après 1945. Donc les nomades sont toujours soumis à un contrôle par le carnet anthropométrique. Mais de l'autre côté, les changements du territoire, de l'économie, produisent une exclusion territoriale. Je m'explique. En fait, l'urbanisation et la reconstruction des centres-villes, le développement urbain, provoquent l'expulsion des centres-villes de quartiers très anciens, parfois, où habitaient des communautés gitanes, ou manouches, ou roms, dans les villes, que ce soit à Toulouse, que ce soit à Arles, que ce soit dans les villes du sud ou du nord, ou même de l'est de la France. Et elles vont être expulsées en dehors des centres-villes, placées dans des lieux qui vont prendre des noms tout à fait différents, que ce soit des polygones, des villages d'insertion, des camps pour nomades. Et parallèlement, l'État français développe une politique qu'on appelle la politique des aires d'accueil, qui correspond à la création de lieux où peuvent résider durablement des caravanes. Mais ces aires que moi j'appelle sans accueil sont en fait des lieux dégradés, désolés, souvent enclavés, et ça va créer un sentiment d'exclusion justifié de la part des populations qui vont se sentir abandonnées des pouvoirs publics jusqu'à aujourd'hui dans certains cas. De fait, cette loi sur les aires d'accueil va prendre forme en 1990 avec la loi Besson qui impose aux communes de plus de 5000 habitants de créer des aires d'accueil, loi qui est respectée seulement dans la moitié des communes de France.
Peut-être pour finir aussi, ce qu'on constate, c'est l'importance de la famille aussi. C'est des familles souvent nombreuses, extrêmement soudées. Votre exposition s'est construite aussi autour du travail de Mathieu Pernaud, qui a suivi pendant plus de 20 ans une famille arlésienne, les Gorgans. Alors comment vous avez intégré son travail dans l'exposition ?
Alors cette question des familles, oui, c'est important. C'est vrai que ce qu'on a voulu faire le plus possible, c'est restituer des noms de famille, des patronymes, pour rapprocher cette histoire aussi d'une histoire des individus, des groupes, et au même temps d'histoires qui sont très différentes les unes des autres, que ce soit les gitans catalans de Toulouse, ou bien les manouches de Paris, ou encore les manouches qui s'installent dans l'est de la France, ou en Auvergne. On consacre une projection d'image de manouches d'Auvergne des années 60-70, réalisé par le père Joseph Vallet. Et Au-delà de ça, il nous paraissait important de consacrer une partie de l'exposition à l'évocation de l'autre rôle de la photographie dans le témoignage de cette histoire. C'est lorsque le photographe n'est pas seulement le témoin éphémère d'une réalité sociale, mais il est partie prenante d'un univers souvent familial dans lequel il est inclus et dont il fait partie au fil des années. Et le travail de Mathieu Pernaud est un travail artistique, tout d'abord, il faut le distinguer du reste de l'exposition, et c'est une proposition esthétique qui, finalement, prolonge l'idée selon laquelle parler de ces mondes ne peut se faire que lorsque le photographe est réellement immergé dans une réalité sociale et familiale.
Et donc il met en parallèle des images en noir et blanc du début de la période où il a commencé à travailler sur la famille des Gorgons et des images en couleur sur, je crois qu'il a eu une coupure de 10 ans quand il les a retrouvées, donc les photos sont en couleur et on voit vraiment l'évolution de chacun des personnages.
Oui, c'est un travail dans le temps long. Alors, c'est ça qui est fort, je pense, au-delà de la condition sociale et économique qu'on voit de cette famille. Ce qui est important, c'est la transformation de chaque personnage. Hein. En fait, l'exposition est conçue selon des murs sur lesquels apparaissent des portraits composites de personnes, que ce soit les parents ou les enfants, Giovanni ou Vanessa ou d'autres membres de la famille, qui sont représentés par une sorte de myriade de photographies qui a été réalisée dans le temps long d'une vingtaine d'années et qu'ils ont réalisé aussi eux-mêmes. En fait, Mathieu intègre dans ses panneaux des images que de la famille elle-même.
Merci, Ilsen About. L'exposition photographique Monde Tsigane, la fabrique des images, est à retrouver au Musée national de l'histoire de l'immigration jusqu'au 26 août 2018. Tout de suite, pour rester dans le thème, on écoute le musicien tsigane Tcha Limburger qui interprète Si tu vois ma mère de Sidney Bechet. Ma mère, du musicien tsigane Tcha Limburger, petit prodige qui joue de la musique en étant aveugle. C'est un peu le Gilbert Montagnier des tziganes. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, sur le 93.9 FM, et vous écoutez Museum Side, votre émission de critique d'exposition.
Je comprends pas ce que je vois.
Marie Cassatt est née le 22 mai 1844 en Pennsylvanie dans une famille très aisée. Son père est le fondateur de Cassatt & Co., une société d'investissement, et sa mère est la fille du président de la Bank of Pittsburgh. Marie a la chance, venant d'un milieu privilégié, elle peut faire plus ou moins les études qu'elle veut et choisit d'étudier les arts à la Pennsylvania Academy of the Fine Arts à Philadelphie. En 1865, elle part à Paris et elle va dorénavant effectuer de longs séjours en Europe, même si elle retourne de temps en temps exposer à Philadelphie. En 1877, elle rencontre Degas, qui va lui ouvrir les portes des impressionnistes, et elle exposera dorénavant auprès d'eux. Alors, comme eux, elle avait vu ses tableaux refusés plusieurs fois au salon parce que jugés trop radicaux dans leur style. À chaque retour à Philadelphie, elle conseillera ses amis collectionneurs pour acheter des toiles impressionnistes. Et donc, elle a vraiment participé à la promotion de son groupe d'amis là-bas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de toiles impressionnistes dans des musées américains. Elle ne se mariera jamais et restera farouchement indépendante. Elle meurt en 1926. Aux États-Unis, elle était déjà connue de son vivant. Et elle est encore aujourd'hui, alors qu'en France, elle a mis du temps à se faire reconnaître a posteriori. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Donc Pierre Curie, conservateur au musée Jacques Marandré et commissaire de l'exposition, nous explique justement pourquoi. Il nous parle de la posture féministe de Marie Cassatt et surtout de son amitié vacharde avec Edgar Degas.
Est-ce que ça a été un handicap pour elle d'être une femme à cette période-là ?
Eh bien, je répondrai à la fois oui, oui et non. Oui, parce que évidemment, elles sont très peu nombreuses peintres. Il y en a, pas seulement dans le monde de l'impressionnisme. Dans le petit cercle des impressionnistes, elles sont quatre. En gros, Marie Braquemont, Eva González, Berthe Morisot et elle. Il y avait d'autres femmes artistes, Suzanne Valadon, si vous voulez, à une extrémité de l'avant-garde et à l'extrémité de la peinture nunuche, un peu de fleurs et de guimauve, les amis de Proust, par exemple, hein, Madeleine Lemaire. Ouais. Il y avait beaucoup de femmes artistes, quand même. Mais c'est sûr que dans ce milieu très masculin de l'impressionnisme, vous imaginez coincé entre Pissarro et Monet et Degas, qui étaient misogynes, ça devait quand même pas être très facile d'exister. En même temps, c'était relativement admis. La France était un pays quand même assez libéral, plus que n'était l'Amérique. Et d'ailleurs, elle l'écrira « Je choisis la France ». Les États-Unis, elle les avait un peu quittés parce qu'elle trouvait ça pesant et que la société de laquelle elle était issue voulait lui imposer un modèle social très très contraignant. Elle était quand même un peu féministe par sa vie, par ses choix, et elle est évidemment heureuse de vivre en France plus libre qu'elle ne l'aurait été aux États-Unis.
On lui a un peu reproché, elle est féministe, on lui a reproché de peindre des mères à l'enfant. C'était pas antithétique finalement.
Ben, je dirais que c'est notre époque c'est le féminisme de notre époque qui pourrait mal comprendre cette peinture. En réalité, à ce moment-là, dans la société bourgeoise, les mères abandonnaient leurs enfants aux nurses, aux nourrices, elles ne s'en occupaient pas. Et c'est au contraire un mouvement, je dirais, de récupération, de restauration de la maternité qu'illustre Marie Cassatt. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment où les femmes se sont réappropriées leur maternité, leurs enfants, etc. Et ça, cette iconographie de Marie Cassatt colle complètement à cette perception qui est peut-être l'inverse de celle que l'on a aujourd'hui, mais qui était très réelle vers 1890.
Et peut-être un petit mot sur sa relation avec Degas, qui est étrange.
Ben oui, enfin, si c'était de l'amour, on dirait que c'est de l'amour vache. C'est une grande amitié. C'est une grande amitié artistique, personnelle, pour toutes sortes de raisons qu'on ne connaîtra jamais complètement. Lui est un peu américain, donc une bonne partie de sa famille qui est américaine, ce qui pourrait expliquer la sympathie qu'il a pour elle. Elle a de l'admiration pour lui, une admiration d'artiste. Il ne la prive pas de ses remarques acerbes, de ses coups de griffe. Hein, ça, assez souvent, il la met en boîte, comme on dit aujourd'hui. Il a des expressions tellement étonnantes quand il dit d'elle « Je ne supporte pas qu'une femme dessine aussi bien ». Alors ça, c'est vraiment tout Degas, c'est-à-dire le misogynisme, la misogynie à mort, mais en même temps une admiration pour cette femme qui a un tel talent. Et puis, il a parfois ces mots cruels, mais très très justes, quand il regarde cette Madone, cette mère à l'enfant qui est devant un miroir qui forme comme une auréole à l'arrière-plan de la mère et de l'enfant. Il a ce mot, il dit « c'est le petit Jésus avec sa nurse anglaise ». Et quelque part, il met exactement le doigt sur ça, c'est-à-dire une peinture à la fois religieuse, indiscutablement avec un fond chrétien, et puis une note mondaine. À l'époque, Marie Cassatt vend bien ses tableaux, elle a bien gagné sa vie avec son œuvre. Donc on est là sur voilà, ce que j'appellerais, on va dire, l'amitié vache.
Une amitié vache, donc. on la voit dès le début, cette amitié exceptionnelle entre Edgar Degas et Marie Cassatt dans deux tableaux, à côté l'un de l'autre, un autoportrait, donc une gouache rehaussée d'aquarelle, et un portrait d'elle, une huile sur toile peinte par Degas. Galadriel, c'est dans la première salle.
Oui, tout à fait. Alors, cette première salle nous présente Marie Cassatt, donc cette impressionniste américaine, et notamment cette amitié qui l'a liée à Degas. Il y a notamment écrit sur le mur cette phrase de Marie Cassatt : la première fois que j'ai vu des tableaux de Degas, cela a été le tournant de ma vie artistique. C'est assez marquant d'ailleurs, puisque dans cette salle, on peut voir trois de ces tableaux qu'elle a réalisés en arrivant à Paris. Alors, elle arrive à Paris, en 1865. Comme évidemment l'école des beaux-arts était à l'époque encore interdite aux femmes, eh bien elle prend des cours dans des ateliers privés, notamment Jean-Léon Gérôme, et du côté des Couens, elle travaille comme ça dans une communauté d'artistes, et elle réalise des œuvres qui sont acceptées au salon. Donc 3 ans plus tard, en 68, elle a sa première œuvre au salon officiel, qui est La joueuse de mandoline. Une œuvre de facture somme toute encore très classique, où on voit une jeune fille qui se détache sur un fond uni, jouant d'un instrument un peu comme les portraits du 18e siècle,
barbant d'ailleurs.
Mais donc très rapidement, dans la décennie 1870, elle va se rapprocher du groupe impressionniste, cet art de la modernité qui se développe à Paris, et notamment elle rencontre Degas. Et tout de suite, elle adopte un style beaucoup plus libre. Et c'est ce que l'on peut voir avec cette œuvre qui est d'ailleurs l'affiche de l'exposition. Enfin, c'est Petite fille dans un fauteuil bleu. Alors cette œuvre, elle la réalise en 1877 et elle est refusée au salon officiel. Donc c'est bien la preuve que elle est rentrée ici dans une forme d'art qui était jugée encore trop radicale à l'époque. Cette instantanéité cherchée par l'impressionnisme et surtout avec alors plein d'éléments qui ne sont pas du tout académiques, un cadrage assez particulier, presque en plongée. On voit un intérieur avec un intérieur fermé d'ailleurs, une pièce avec des tons assez unis. Il y a quelques fauteuils au ton bleu. Et cette petite fille assise dessus, avachie dessus, on pourrait même dire.
C'est le terme.
Ça passe parce que c'est une petite fille, mais on n'est pas du tout ici dans la mise en valeur du modèle ou du sujet. C'est plutôt cette peinture du quotidien, de l'intimité qu'on trouve dans le cercle impressionniste à l'époque. Et du coup, grâce à Degas, à ses amitiés, à ce rapprochement, elle expose dans les expositions impressionnistes à partir de 79. Et on a aussi l'œuvre Dans la loge qui montre effectivement cette très grande proximité avec Edgar Degas, où on voit une jeune femme assise au balcon d'une salle de spectacle. Alors, ce n'est pas l'Opéra Garnier, d'après ma grande expertise des lieux, mais en tout cas, un théâtre parisien. Et ça ressemble énormément à ce que Degas pouvait peindre aussi, cet attrait pour le monde du spectacle, mais le off aussi, ce qui se passe dans le public. On voit cette femme avec ses jumelles en train de regarder la scène, ou peut-être regarder les autres spectateurs, puisque c'était le grand jeu à l'époque, regarder et être vu. Donc voilà pour cette première salle introductive sur les débuts finalement de Marie Cassatt à Paris.
Tout à fait.
Et dans
j'approuve.
Merci Florence. Et dans la deuxième, on a une série de portraits.
Là, c'est plus intimiste, c'est plus sur sa famille.
C'est ça, une série de portraits de sa famille, des membres de sa famille, qui sont ses premiers modèles, depuis les débuts, dont on a aussi ici des portraits avec, d'après ce style impressionniste, plus intime, exactement, c'est le terme. Il y a des huiles et des pastels, donc c'est bien aussi de voir ces deux techniques qui nous proposent un rendu complètement différent. On voit notamment Lydia, qui est sa sœur, dans l'œuvre La tasse de thé, avec une belle harmonie, tout en tonalité de vert et de rose. Alors on voit que Lydia est très coquette, habillée à la mode de l'époque, avec encore un cadrage très resserré autour d'elle, autour de la figure. C'est ce genre de cadrage un peu photographique que l'impressionnisme, et notamment Degas, va développer. Et on voit aussi le portrait d'Alex, son frère. Et là, ce qui est intéressant, c'est le petit encart à côté, puisque lui était homme d'affaires, il restait très vivre aux États-Unis et que sous l'influence de Marie Cassatt, il a acheté beaucoup d'œuvres de Renoir, Degas, Monet, etc. Et qu'il est l'un des tout premiers collectionneurs des impressionnistes aux États-Unis.
Ce qui explique donc en effet le nombre de tableaux impressionnistes dans les collections américaines.
Oui, c'est ça. L'impressionnisme a eu un engouement plus rapidement et plus fort aux États-Unis qu'en France, alors que c'est le berceau créateur, finalement.
Voilà. Alors, Marie-Hélène, toi, donc, la salle 3, c'est la modernisation d'un thème. Mais de quel thème ?
Eh bien, c'est la modernisation du thème de la maternité. Donc, il faut savoir que de 1881...
Elle est connue pour ça, Marie Cassatt.
Exactement. Et c'est le genre de peinture qui l'a fait connaître. Et en fait, donc, au début, on a vu avec Galadriel qu'elle se spécialise dans l'impressionnisme. Et là, de 80 à 91, elle va maintenant passer à la représentation des mères à l'enfant et faire vraiment de ce thème, le thème de la Madone, quelque chose qui lui est propre et dans lequel elle va s'exprimer et vraiment développer une forme d'art propre à elle. Donc la mère à l'enfant n'est pas un thème nouveau, bien sûr, hein, il est même très ancré dans notre héritage artistique puisqu'il date de la Renaissance occidentale, mais Marie Cassatt parvient à moderniser cette iconographie avec sa patte impressionniste tout en gardant un peu le côté tradition parce que c'était aussi une de ses volontés d'artiste de ne pas couper la modernité, enfin ne pas casser les codes, d'avoir justement cette base de tradition mais de pouvoir à la fois la surpasser les anciens en fait. Donc Marie Cassatt va présenter deux sujets à l'exposition des impressionnistes de 81 pour commencer un peu à tâter le terrain, intéresser les critiques à ce genre. Et elle s'y consacre plus sérieusement, même très sérieusement, à partir de 88. Elle va développer son travail en série, comme Degas l'avait fait avec ses danseuses ou bien Monet avec ses meules. Donc il faut savoir que ce nouvel intérêt pour les mères à l'enfant va donner une nouvelle énergie à l'artiste parce que sa production avait faibli ces dernières années. Elle s'était éloignée de l'atelier à cause de la maladie et du décès de sa sœur Lydia, dont Galadriel nous parlait plus tôt. Et donc elle s'était éloignée aussi de l'atelier avec les nombreux séjours de sa famille à Paris. Donc dans ce renouveau, elle fait des tableaux, des pastels, des estampes. Et le public parisien est rapidement séduit en fait par ce genre. Il y a une forme de poésie, de lyrisme qui se dégage de ses œuvres. Et les émotions sont vraiment exacerbées par rapport à toutes les scènes de vie qu'on a pu voir. Ou même les conceptions des mères à l'enfant qu'on peut avoir en souvenir dans la tête. Et on passe vraiment du réalisme à quelque chose de plus symbolique, au symbolisme en fait. Dans cette salle, du coup, on retrouve des tableaux, des pastels, mais aussi une superbe série d'estampes, des dessins à la pointe sèche. Donc ils ne sont pas en format, ils sont assez petits, mais ils sont vraiment remarquables par la finesse du trait, on a une vraie harmonie dans les lignes. Et c'était donc sa volonté de ne pas tout de suite partir sur des grands formats, mais plutôt de travailler en série, en petit, et pouvoir développer donc ce genre et y apporter tout son intérêt. Et aussi, l'une des spécialités qu'on va retrouver plus tard, c'est vraiment les nuances de chair que Marie Cassatt parvient à donner à ses bébés dans cette partie maternité. Les enfants paraissent vraiment vivants, ils sont bien représentés, la peau est fraîche, les grosses joues de bébés potelés, on y croit, on a l'impression de les voir. Et donc voilà, on a toute cette partie de modernité qui s'installe dans la maternité, donc qui est un thème très féminin, en fait, pour l'époque. On attribue souvent le talent de Marie Cassatt au fait que ce soit une femme et que du coup, comme c'est une femme, c'est normal qu'elle arrive bien à représenter le thème de la maternité et à saisir les peaux de bébé. Mais du coup, c'est très réducteur, en fait, parce que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on sait mieux faire qu'un homme ou inversement, quoi. Donc, au contraire, Marie Cassatt, elle défend cette approche en s'appuyant sur les convictions féministes de l'époque. Et selon elle, elle a modernisé ce thème traditionnel plutôt en célébrant l'accomplissement des femmes dans la sphère privée plutôt que parce que c'est juste une femme. Donc, ça fait plaisir de voir qu'elle prend aussi sa défense. Donc voilà, dans cette troisième salle, on a une véritable modernisation de la maternité qui est un fil conducteur dans son œuvre. Et on reverra plus tard avec la dernière salle qu'elle a aussi modernisé les Madones. Ce grand thème religieux.
Et je pense que ce qui lui permet aussi de rendre cette carnation, c'est vraiment aussi les expérimentations techniques qu'elle fait, notamment le pastel et les gravures. Alors moi, ce que j'ai aimé justement, c'est donc toutes ces expérimentations incessantes qu'elle fait. Le premier matériau de prédilection donc qu'elle manie comme personne, c'est le bâton de pastel. Et en fait, il se plie parfaitement au nouveau style présenté par les impressionnistes. Il est transportable, il permet des touches colorées rapides, d'où une belle carnation en effet pour ses petites joues de bébé. Et Marie Cassatt va jouer avec les traits marqués du pastel. Chacun de ses dessins est inachevé dans la lignée d'un Rodin, j'ai envie de dire en sculpture. À partir du moment où elle adopte le pastel, il lui suffit de 10 ans pour réduire ses traits à un minimum. Et l'amenuisement des éléments du dessin au profit de zones laissées nues focalise en fait l'attention du spectateur sur ses mères à l'enfant et surtout sur les bébés potelés qui se retrouvent vraiment au centre de sa composition. Dans Petite fille en chemise sur un lit, par exemple, l'enfant est posé sur un lit qui est esquissé par deux traits. Sa robe n'est qu'un gros amas de traits blancs d'une incroyable vivacité. Et ça met vraiment valeur, donc cette petite fille, au centre. Ensuite, la méthode impressionniste, surtout telle que Degas la pratiquait, lui ouvre les yeux sur deux manières de penser le dessin. Et on voit donc deux séries aussi donc faites avec ces deux nouvelles techniques, qui sont donc la gravure en taille douce et l'estampe japonaise. Alors la taille douce, en fait, c'est l'ensemble des procédés de gravure en creux sur une plaque de métal. C'est-à-dire, en fait, on met l'encre dans les creux que l'on a auparavant dessiné avec un outil. Donc c'est le principe du tampon. Enfin, du coup, en inversé, justement, puisque c'est dans les creux. Évidemment, le modèle est à l'envers pour que, appuyé sur une feuille de dessin, il apparaisse à l'endroit. Et que ce soit à l'eau forte, l'aquatinte ou à la pointe sèche, elle ne s'attend pas à toutes les possibilités qui s'offrent à elle en dessin. Pour les deux premières, donc en fait, pour l'eau forte ou l'aquatinte, en fait, le principe, c'est que la plaque est recouverte d'une résine et l'acide qu'on met sur la plaque va venir attaquer les zones de la plaque sans résine pour former le dessin. Et la pointe sèche, c'est tout simplement l'outil pour graver en taille douce. Donc, il s'utilise sur la plaque de cuivre comme un crayon sur du papier. Elle fait donc à partir de là, elle fait des séries sur son environnement, dans sa sphère privée, mais aussi dans les parcs et les théâtres. Et parfois, elle ne fait même pas d'esquisses préparatoires, elle dessine directement sur la plaque pour eau forte. Ça donne deux séries magnifiques, dont certaines parties sont exposées dans l'expo, dont certaines parties sont dans l'exposition, comme le merveilleux dos de bébé. Ça s'appelle dos de bébé. Je ne sais pas si vous voyez lequel c'est. Donc un bébé porté par sa mère de dos, qui est vraiment, c'est un ravissement. Et enfin, au printemps 1890, elle découvre une exposition d'estampes japonaises organisée à l'École des Beaux-Arts de Paris. Et elle commence à réfléchir à l'introduction de la couleur dans ses gravures. Et donc, elle va garder les mêmes techniques qu'avant, donc aquatinte et eau forte. Sauf que elle décide d'appliquer les couleurs en imprimant les planches plusieurs fois, avec chacune une couleur différente. Donc, ça prend énormément de temps. Mais elle réussit et ça donne une autre merveilleuse série que l'on voit dans l'exposition avec donc la lettre où c'est une femme qui est en train de cacheter une lettre. Dans l'omnibus, deux femmes assises avec un gros bébé, on a l'impression que c'est un nuage blanc au milieu qui est très mignon. Caresse maternelle ou la toilette où on sent vraiment l'influence de Degas ou encore jeune fille essayant une robe. Voilà, donc finalement c'est une femme moderne, Charlotte.
Et oui, en effet, pour ma part, je me suis attardée à la sur la salle suivante qui est intitulée « La femme moderne ». Alors pourquoi parle-t-on de femme moderne dans cette salle ? Eh bien tout simplement parce que Marie Cassatt, bon on l'a déjà vu, mais elle fait des femmes les principaux sujets de ses tableaux. Si vous regardez bien, on y croise en effet peu d'hommes. Et plus encore, Marie Cassatt a représenté les femmes, donc on en a aussi un petit peu parlé, dans le domaine privé. Donc ici, on les voit notamment s'adonner aux loisirs, comme à la cueillette de fruits ou à la promenade en barque, deux thèmes qui dominent dans cette salle. Ces peintures se nourrissent donc d'influences impressionnistes et, par leur sujet, elles sont des plus novatrices. Si vous allez visiter l'exposition, ne manquez surtout pas l'été, qui est vraiment une très belle toile où l'on voit deux jeunes filles vêtues de robes aux tons pastel, bleu et rose, qui profitent d'une séance de canotage. Et par ce temps, en tout cas ces derniers temps, ça fait envie. Donc le canotage fait justement partie de ces nouvelles activités dont bénéficient à l'époque les femmes d'une classe plutôt aisée, une classe à laquelle appartient justement Marie Cassatt. Donc pour ses toiles en plein air, elle s'inspire justement de l'environnement de son château de Beaufrêne dans l'Oise qu'elle a acquis en 1894 et où se trouve un étang qui va bien l'inspirer. Donc elle reçoit dans ce château de nombreux artistes comme les peintres Degas, Pissarro qui habite non loin à Éragny-sur-Epte. D'ailleurs, ça peut faire écho à l'exposition qu'il y avait eu l'année dernière au Palais du Luxembourg sur Éragny, justement, qui était une très belle exposition. Mais elle reçoit aussi des artistes étrangers comme la romancière britannique Vernon Lee. Donc dans cette salle, vous pourrez également admirer une autre grande toile qui est intitulée « Jeune femme cueillant des fruits », où la femme apparaît ici dans une tenue souple, un choix vestimentaire qui n'est pas sans traduire une certaine liberté. Et oui, fini les corsets, maintenant on peut profiter de robes amples. L'été, c'est parfait. Donc, par ailleurs, il n'est pas inintéressant de savoir qu'à l'occasion de l'exposition universelle de Chicago de 1893, on commande à Marie Cassatt une grande fresque murale intitulée « La femme moderne » et destinée à décorer justement le pavillon de la femme. Et tout dans ce pavillon, il faut bien le savoir, devait être réalisé par des femmes. Donc ici, là, sur cette fresque, donc on ne voit pas parce qu'en fait, elle a disparu. On ne peut pas la retrouver. Mais la femme apparaissait comme très épanouie, cultivée, imprégnée des sciences, des arts, etc. Donc même si cette fresque a aujourd'hui disparu, on peut quand même en retrouver quelques échos dans des œuvres exposées ici. Donc vous pourrez voir des estampes comme la leçon de banjo ou l'espalier, qui est deux thèmes qui étaient bien présents sur cette fresque.
Et du coup, tu as aussi choisi de traiter la salle consacrée à l'enfance.
Alors oui, tout à fait Florence. Et représenter l'enfance, c'est aussi un des thèmes de la peinture féminine, peut-être même féministe par excellence à cette époque. Dès les années 1880, Marie Cassatt s'exerce donc à peindre des petits bambins. Et ses portraits ont d'ailleurs largement contribué à façonner sa renommée comme la maternité, comme nous l'expliquait Marie-Hélène tout à l'heure. Donc ici, on voit beaucoup de fillettes à qui elle met des chapeaux immenses, mais non moins élégants. Et d'ailleurs, le chapeau était son accessoire favori, à ce qu'il paraît.
C'est rigolo de voir ces petites têtes d'enfants avec un gigantesque chapeau, beaucoup plus grand que leur tête.
Il y a un décalage assez saisissant.
Et elle en joue d'ailleurs, de ce décalage.
Tout à fait. Et justement, dans le catalogue, on peut lire que nous sommes en présence d'enfants pensifs, c'est-à-dire d'enfants déjà mûrs pour leur jeune âge, et qui sont installés dans ces larges sièges, et avec la tête recouverte de chapeaux surdimensionnés. Et justement, ça montre le contraste entre leur jeunesse, tout en suggérant que ce sont des adultes en devenir. Et l'avenir, justement, Marie Cassatt s'en préoccupait beaucoup. Alors, attardez-vous par exemple devant Mademoiselle Louise-Aurore Villebeuf ou Mademoiselle Anne-Marie Durand-Ruel, qui est la fille du célèbre marchand d'art. C'est vraiment très joli, on a des petites poupées face à soi. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que plusieurs tableaux nous présentent des visages très travaillés, mais le bas du corps est pour sa part plutôt inachevé, ou donne parfois l'impression d'avoir été réalisé à la hâte. Donc je pense notamment à la fillette au chapeau bleu, peint vers 1911, qui a des yeux bleus magnifiques d'ailleurs, il faut bien le dire. Mais en fait, cette période correspond à un début de cataracte chez Marie Cassatt, qui perd définitivement la vue en 1921, d'où ce contraste entre de beaux visages bien, bien dessinés et un buste ou un corps plutôt
esquissé.
Brouillon. Non, c'est peut-être pas le mot, mais voilà, esquissé, c'est très bien.
Et du coup, est-ce que cette cataracte joue sur les madones modernes qu'elle peint dans la dernière salle ?
Eh ben, figurez-vous qu'elle avouera plus tard à la fin de sa carrière que c'est justement cette façon de représenter la chair des bébés, des personnages sur les madones modernes, qui lui manquera le plus dans son travail, puisque c'est vraiment ce qu'elle a aimé faire et ce qui représentait tout son art. Et d'ailleurs, c'est notamment une des raisons pour lesquelles ces madones modernes sont modernes, parce que vraiment la carnation, les peaux, on s'attarde vraiment dessus, et c'était aussi une volonté donc de Marie Cassatt. Là, elle revoit en fait complètement ce thème, elle revoit la tradition et la symbolique religieuse, parce que du coup, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose de très ancré dans notre héritage artistique. Donc elle réussit avec brio ce pari entre tradition et sa petite touche à elle de modernité et d'impressionnisme aussi. Donc on a vu qu'à Paris, il y avait eu un fort enthousiasme pour le thème de la mère à l'enfant dès le début et que ça avait bien accroché, alors que le public américain, donc de Marie Cassatt, apprécie également ces madones, mais néglige complètement en fait la signification que ce thème a en Europe, où du coup il découle de cette longue tradition artistique occidentale. En fait, les Américains s'arrêtent à des interprétations plus littérales, comme l'évocation de la pouponnière ou l'activité de la mère en fait, et oublient complètement ce côté en fait religieux qu'il y a dans la madone et que Marie Cassatt ne voulait pas perdre, même s'il y avait de la modernité. Donc, même quand dans les expositions, on présente les compositions essentiellement des mères-enfants, elles sont finalement amoindries par les critiques ou le public qui voit juste des études de femmes et d'enfants, tout simplement. Donc, les spectateurs sont quand même séduits par, américains sont séduits par cette modernisation, mais se laissent quand même assez distraire et manquent le point que Marie Cassatt a envie quand même de garder. Donc, il y a même un critique, et ça c'est assez impressionnant, qui va écrire que les figures de Cassatt sont des personnes ordinaires, en fait, sans beauté particulière. Donc, vraiment, on va s'arrêter au caractère des personnages sans aller voir plus loin. Il a même écrit qu'il souhaiterait que l'artiste rende ses couples mère-enfant plus attrayants pour le spectateur. Donc ça va un petit peu loin quand même. Et pour répondre à tout ça, à la fin des années 1890, Marie Cassatt insère dans ses œuvres des références à la fois stylistiques et iconographiques plus marquées, donc de la mère à l'enfant des anciens, qu'elle a tant voulu reproduire en insufflant sa modernité. Donc par exemple, elle va exploiter le double sens d'objets ordinaires qui deviennent tout d'un coup des symboles religieux. On a par exemple l'utilisation du miroir ovale sur certains tableaux. Il suggère en fait une auréole autour de la tête de la mère et de l'enfant qui du coup symbolise ce côté religieux. Et le public américain finit par être conquis par cette nouvelle forme de beauté après tant d'explications et de travail. Et donc dans ses tableaux de mère à l'enfant tardive, Marie Cassatt va encore plus s'attacher à traiter cette chair comme elle le fait si bien. Et là encore, une nouvelle fois, il va y avoir une véritable mise en valeur de cette technique et de tout ce travail au fil des années. Et à la fois, c'est donc du coup un hommage aux méthodes qu'elle a héritées des anciens comme Rubens et Le Corrège, et à la fois sa technique à elle qu'elle a développée. On a ce rendu très velouté, la finesse, le jeu des couleurs de la peau et des vêtements. Je pense par exemple au tableau qui s'appelle « Mère en robe rose tenant son bébé nu » autour de 1914. Donc c'est vraiment quelque chose de très délicat, et ça revisite complètement ce thème assez figé des mères à l'enfant et des madones modernes posées très strictes quelque part. Là, on est vraiment dans l'attachement, on ressent l'émotion, tout en gardant cette caractéristique et ce lien. Et donc, que ce soit de toute façon au cours de toute l'exposition, des peintures, des pastels, de la pointe sèche, c'est quelque chose que Marie Cassatt n'a pas perdu, justement, ce lien et cet attachement à plus d'émotions dans le rapport mère-enfant.
Donc du coup, est-ce que c'est une exposition que vous recommanderiez
Oui, vivement, ouais.
Toi, tu connaissais Marie-Hélène, Marie Cassatt, avant ?
Je connaissais pas, juste de nom. Et franchement, j'étais agréablement surprise parce que j'avais un peu des préjugés à me dire « Est-ce que je vais pas un peu m'ennuyer dans cette exposition ?» C'est très vite dit, hein. Et finalement, je me suis laissée complètement séduire. Et c'était assez marrant de voir le paradoxe, en fait, entre une femme qui est très indépendante, qui se mariera jamais, qui aura pas d'enfant, et qui s'attache à, justement, développer ce thème et montrer qu'on peut travailler là-dessus c'est pas parce qu'on a une femme qu'on s'y cantonne, quoi. Et je trouve que c'était un très beau thème à voir, quoi.
Donc c'était le mot de la fin, merci. Marie Cassatt, une impressionniste américaine à Paris, est à voir au musée Jacques Marandré jusqu'au 23 juillet 2018. C'est maintenant l'heure de ta chronique, Charlotte, et tu nous parles de tableaux en musique. Et oui, aujourd'hui, voyons encore une fois comment la musique nous parle de peinture. Direction la Russie, à la fin du 19e siècle, je vous propose un petit temps d'arrêt sur les tableaux d'une exposition, une œuvre de Modeste Moussorgsky, à l'origine écrite pour piano, puis transposée pour orchestre. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, Moussorgsky est un compositeur russe, né en 1839 et mort en 1881. Il est connu pour avoir appartenu au groupe des Cinq, avec Mili Balakireff, Alexandre Borodine, César Cui et Nikolai Rimsky-Korsakov. Tous grands défenseurs d'une musique purement russe, empreinte de folklore et de couleurs populaires, traditionnelles. Et parmi les œuvres les plus connues de Moussorgsky, donc, on trouve les fameux tableaux d'une exposition. Le 4 août 1873, le compositeur perd brutalement l'un de ses amis. L'architecte et peintre Victor Hartmann décède d'un anévrisme à seulement 39 ans. Une grande exposition d'une centaine de ses dessins et maquettes est alors organisée à Saint-Pétersbourg pour lui rendre hommage, et c'est de là que vont naître les tableaux. Moussorgsky s'imprègne des œuvres de son ami et les restitue sous la forme d'une promenade musicale pour piano en 10 parties. Elles sont d'ailleurs reliées entre elles par de courts interludes appelés promenades, tout simplement.
Alors, parmi ces tableaux, nous trouvons par exemple la description musicale d'un inquiétant gnome, en écho au dessin de Hartmann intitulé Gnomus. Moussorgsky dépeint aussi des paysages, notamment un vieux château médiéval italien, Il Vecchio Castello, une pièce empreinte de nostalgie, une pièce vraiment très belle que je vous recommande d'écouter. D'autres, au contraire, sont pleines d'humour, comme le ballet des poussins dans leur coque, transposition d'un dessin qui représente deux personnages dans leur costume. Le compositeur nous prend par la main et nous fait également visiter les Tuileries, le marché de Limoges, les catacombes et clôt son cycle par une pièce majestueuse intitulée « La grande porte de Kiev ». La partition jaillit de la plume de son auteur en à peine 3 semaines et oui, il était inspiré. Nous la connaissons aujourd'hui surtout dans sa version orchestrale. La plus reprise est probablement celle signée de la main de Maurice Ravel en 1922. Et si vous aimez la musique de Moussorgsky, dans un mois précisément, vous pourrez retrouver son opéra Boris Godounov à l'Opéra Bastille à Paris.
Merci Charlotte. Comme chaque mois, c'est donc le moment du traditionnel petit tour de table de nos coups de cœur. Marie-Hélène, je me tourne vers toi.
Oui, alors moi je vais vous parler de l'exposition de Junya Ishigami à la Fondation Cartier qui s'appelle Freeing Architecture. Donc c'est l'exposition d'un architecte japonais qui prône une vision souple et libérée de l'architecture et une vision aussi de l'architecture qui correspond à l'évolution de la société. Donc à travers ses maquettes, il a voulu exprimer que cette attente à la fois entre la façon d'écouter les besoins de chacun et de créer quelque chose qui soit en harmonie avec la Terre. Donc voilà, c'est une exposition d'anticipation avec des projets qui ont déjà été réalisés ou d'autres qui ne sont justement qu'au stade de projet. On déambule à travers plus de 30 maquettes impressionnantes, des dessins et aussi des films qui expliquent sa démarche. Et je trouve que dans cette expo, en fait, on ressent bien l'influence japonaise, très ouverte sur l'environnement et le paysage. Donc c'est vraiment très impressionnant à aller voir. Il faut savoir que les maquettes ont été créées justement pour cette exposition. Donc il y a beaucoup de matériaux différents, des détails, des dimensions. Et à travers ces maquettes qui peuvent paraître sobres d'apparence, il y a une grande complexité, un travail très minutieux. Et ces maquettes interrogent la place de l'homme au sein de l'architecture et aussi nous fait rêver parce que c'est de très très beaux bâtiments et il y a quelque chose de très poétique qui s'en dégage et elle est à voir jusqu'au 10 juin.
Alors du coup, moi j'aimerais parler de l'exposition Au fil du siècle, chef-d'œuvre de la tapisserie 1918-2018, qui est actuellement présentée à la Galerie des Gobelins jusqu'au 23 septembre 2018. Alors, qui aurait pu imaginer que la tapisserie, trop souvent jugée vieillotte ou ringarde, pouvait être une des techniques artistiques les plus inventives ? Eh bien, la nouvelle exposition de la Galerie des Gobelins, qui présente des chefs-d'œuvre de sa collection, tient toutes ses promesses. Matisse, Picasso, Fernand Léger, Miro et même, étonnamment, Le Corbusier ont accepté de répondre aux commandes de la Manufacture Royale des Gobelins dès les années 1940. Et à partir de là, les artistes ont su exploiter subtilement la technique pour tirer parti de toutes les possibilités du tissage. Ainsi, André Masson arrive à traduire en hachure l'aspect granuleux du sable qu'il utilise dans ses peintures surréalistes dès les années 1920. Matisse, lui, utilise pour la première fois une photographie sur une plaque de verre comme modèle pour transposer son œuvre La femme aux luttes en laine. Enfin, dans les années 70, Nicolas Chauffeur pousse l'expérimentation à son paroxysme en intégrant des tubes de néon dans les fils entremêlés. La tapisserie n'a jamais autant brillé de mille feux. Voilà, l'exposition est donc à voir jusqu'au 23 septembre. Et Galadriel, je ne t'ai pas oublié pour ton coup de cœur.
Oui, moi c'est l'exposition Artistes et robots qui est au Grand Palais. On avait peut-être déjà un petit peu entendu parler. Donc nous avons des œuvres exposées, créées par des artistes, mais grâce à un nouvel outil, le robot. Alors, on a des robots assez simples, hein, juste exécutant des actions qu'on leur a programmées. Des robots plus autonomes, programmés grâce à des algorithmes, et donc finalement hein, qui se transforment petit à petit en intelligence artificielle. Et des œuvres aussi interactives qui jouent avec le public en créant par exemple des tableaux
des tableaux directement par rapport aux spectateurs qui sont devant les écrans finalement. C'est très rafraîchissant de voir une exposition un peu sur un autre ton avec cet art contemporain qui ouvre certainement la voie vers la création du futur. Bien que c'est des formes d'art hein, qui sont développées depuis les années 60 déjà. Mais voilà, l'art doit évoluer avec son temps, donc il serait peut-être bon de se pencher de ce côté. Elle est à voir jusqu'au 9 juillet.
Pardon. Museum Site, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Ilsen About, merci à vous les filles, Galadriel, Marie-Hélène et Charlotte. Merci à notre réalisateur Louis-Julien. On vous retrouve le dimanche 27 mai à 20h pour l'avant-dernière émission de la saison. On recevra le commissaire de l'exposition Âme sauvage, le symbolisme dans les pays baltes, au musée d'Orsay jusqu'au 15 juillet 2018. En deuxième partie, nous parlerons de l'exposition Nymphéa, l'abstraction américaine et le dernier Monet, au musée de l'Orangerie jusqu'au 20 août 2018. Restez avec nous, la soirée continue sur Radio Campus Paris.